créer facilement les moyens imaginaires où se propulse le cinéma, c'est-à-dire l'invention de mondes un peu farfelus, toutes les fantasmagories qu'on associe souvent au monde plus vrai que vrai du cinéma ne sont pas nécessairement mises en valeur par une certaine tendance du cinéma argentin. Et c'est à propos de cette tendance du cinéma argentin que je vais me consacrer, que la dernière demi-heure de l'émission sera consacrée. À tout de suite.
Pour sa 25e année, le Bal du Lézard poursuit sa mission de faire découvrir au public des artistes et groupes de la relève. Le tout dans l'environnement unique du bal et devant une clientèle qui a soif de nouveaux sons, toujours confondus.
En mai, ne manquez pas l'Eurosité le 7, l'Arme à gauche le 14, Monde et compagnie le 21, Matt Lipscomb le 28, Vossel and the Crossroads le 31 et La Tourelle Orchestra le 4 juin.
Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue. Lebaldulezard.com.
Si vous êtes comme moi, vous trouvez que l'univers des médias et du divertissement doit se savourer comme un bon vin. Faut apprendre à recracher. Vous avez vu ce qui se fait de mieux? À ce temps, venez voir ce qui reste. Venez développer votre cynisme et votre sens critique en lançant des projectiles sur les pires navets de l'histoire aux projections gratuites de films douteux. Votez pour le film de la semaine sur le site de douteux.org, présenté chaque lundi à la Nîmes-Cassé du Faubourg, au 811 rue Saint-Jean, à Québec. Visitez le www.douteux.org pour plus d'infos.
Là-dessus, c'était gratis.
Douteux.org. Si vous avez des questions, ben, nous
Hubert Félix Stéphane, on vient d'entendre la pièce Les Ombres du Soir, une des pièces les plus ambitieuses de son dernier album, Le Supplément de Mensonges. Un album qu'on tarde à trouver sur les bacs ici, mais qui est pourtant un disque qui tranche vraiment avec la production du tout venant de la chanson francophone actuelle, à mon avis. Donc j'espère qu'on pourra le trouver assez facilement prochainement. On peut toujours glaner sur les sites de téléchargement, évidemment, l'album au complet, en payant bien sûr les droits à l'auteur. Il y a des sites qui l'hébergent. Mais pas iTunes Canada. Donc, il est assez difficile à trouver, finalement, pour l'instant. Dernière demi-heure de l'émission 7e Ciel, consacrée entièrement au cinéma, état des lieux du cinéma plus que jamais cette semaine, puisque il y a à peine quelques temps de cela, le mois dernier, je suis allé au festival Bafici de Buenos Aires, festival principalement consacré au cinéma indépendant. Donc, un cinéma indépendant, c'est quoi le cinéma indépendant, la création indépendante contemporaine? Ça peut être une manière de montrer le monde différemment, de penser la vie au quotidien différemment et de la montrer avec cette idée en tête que les idées reçues ne font pas de l'art particulièrement intéressant. Donc, et les formes avérées reconduites pour une énième fois, des manières de raconter reconduites pour une énième fois n'ont pas grand intérêt. Et nuisent forcément à toute forme de respiration, de vie et de souffle créateur. Donc, le cinéma indépendant, c'est peut-être un peu ça. C'est aussi parfois le manque de moyens. C'est aussi parfois, comme je viens de le dire, une manière de montrer le monde, de témoigner de l'époque. Et pour pouvoir en témoigner, il faut des fois faire un pas de côté, surprendre, trouver le style qui convient pour mieux capter l'air du temps. Et un festival comme Bafici est un peu un guetteur pour essayer de voir quel créateur en ce moment capte cet air du temps mieux que d'autres. Et c'est assez intéressant dans ce cadre-là, dans cette perspective d'aller à ce festival en Argentine, puisque justement sur place, il y a quelques créateurs qui donnent des débuts de réponse à cette question, comment capter l'air du temps en ce moment, et en particulier d'un point de vue sociopolitique. Je pense à un film comme El Estudiante de Santiago Mitre, qui était présenté en première au Bafici il y a un mois. J'ai eu le plaisir d'assister à la projection de presse. Et voilà un cas tout à fait atypique, en tout cas pour moi. Un exemple assez extraordinaire de film sociopolitique engagé qui a trouvé les moyens d'exprimer avec beaucoup de poigne et beaucoup de fermeté un certain état de déréliction et de corruption politique en Argentine. En trouvant aussi des ressources et un soutien au cœur des lieux où justement peuvent s'affirmer ou se déployer toute une corruption. Et l'estudianté, c'est assez intéressant parce que c'est aussi le portrait de l'institution universitaire en Argentine, mais au-delà. Aussi, moi, spectateur québécois moindrement informé des grandes institutions qui aura moindrement circulé à l'université, mais qui aura aussi moindrement circulé peut-être dans des bureaux d'État, quels qu'ils soient, pourra se retrouver dans un film comme El Estudiante. La particularité de ce film, c'est qu'il a été soutenu par l'Université de cinéma de Buenos Aires. L'Université de cinéma de Buenos Aires est pratiquement coproducteur du film. Et Santiago Mitre fait le portrait d'un étudiant à l'Université de Buenos Aires qui fait son apprentissage politique. Donc c'est un récit d'apprentissage. À ce niveau-là, on ne sort pas des idées nécessairement reçues ou d'une certaine manière de raconter qui valait tout aussi bien au 19e siècle. C'est comme, dans les romans balzaciens, le fameux personnage qui arrive à Paris en s'écriant « À nous deux Paris » et qui, à la fin... du roman, peut-être tombe amoureux d'une fille sublime qui lui permet de balader un peu partout dans les salons, puis finit finalement dans une sorte de superficialité que l'écrivain montre d'un œil mesquin. Bon, ce genre de portrait de société, on le retrouve aussi d'une certaine manière dans le film de Santiago Mitre. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir que dans ce récit de formation, le cinéaste réussit à brasser finalement des enjeux extrêmement contemporains de l'Argentine, mais aussi de la réalité institutionnelle universitaire au-delà, avec beaucoup de franchise, avec vraiment beaucoup de franchise. Et comment il y parvient? Franchement, je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai été un peu bluffé par ce film de Mitré qui réussit avec une certaine crudité à montrer finalement les liens. Par exemple, que peut entretenir un recteur d'université avec les politiques en place, donc les politiciens, le pouvoir, le grand pouvoir étatique, et comment, pour faire campagne, un recteur ou un recteur, disons, un recteur qui espère être ramené dans ses pouvoirs, va utiliser tous les moyens à sa disposition pour y arriver. Et c'est une mise en scène, entre autres, du machiavélisme de politiciens universitaires qui est montré dans l'étudianté. C'est aussi un récit de formation, puisque à la fin du film, l'un des personnages principaux avec le recteur, donc l'étudiant que le recteur met à sa main, qui... étudiant qui auparavant, lorsqu'il a pour la première fois eu l'occasion de voter, avait soutenu des anciens péronistes, donc l'ancienne dictature, pseudo-dictature et dictature avérée selon les points de vue argentines. Il y a là une mise en scène de la nostalgie finalement politique qui se retrouve un peu partout en ce moment dans le monde contemporain, aussi bien en Europe de l'Est par exemple. Lorsqu'on réélit des partis communistes, qu'en Argentine, lorsqu'on soutient des politiciens qui se revendiquent d'une tradition presque dictatoriale latino-américaine. Bon, teinté de populisme. Bon, cette espèce de confusion politique nostalgique est montrée avec un certain humour et fait rire beaucoup la salle, parce que, bien sûr, un jeune étudiant... présent dans un film et incarnant le récit de formation qui vote pour un parti extrêmement nostalgique et pour des candidats qui revendiquent une tradition, quelque chose d'extrêmement ironique, puisque évidemment les arguments que va utiliser le jeune étudiant pour justifier son vote correspondent à une sorte de discours prémâché qu'il restitue avec peut-être beaucoup d'aplomb et beaucoup d'assurance, mais son énergie, sa force, son charisme se trouve tout à fait en contraste avec une sorte de discours plaqué, emprunté, qu'il utilise pour arriver à ses fins. Et c'est la soif du pouvoir, finalement, qui est mise en scène dans ce film, davantage que la valeur idéologique qui soutient cette soif de pouvoir. Et c'est la grande force de ce film de montrer à quel point le milieu de l'éducation, et le milieu universitaire en particulier, est une sorte de sismographe de la réalité politique contemporaine. Et il est difficile d'imaginer qu'aujourd'hui, par exemple, un film serait soutenu par le département de cinéma de l'Université de Montréal, par exemple, et même financé par lui, pour mettre en scène, entre autres, finalement, un étudiant qui, dans l'université, qui subventionne le film en question, se retrouve face à un recteur corrompu, lié par exemple au Parti libéral, qui serait ami avec Jean Charest, puis qui irait prendre des bières avec le directeur de Power Corporation, puis qui en même temps mènerait un double discours à la fois charismatique et peut-être un peu populiste, du moins très intéressé, avec des étudiants influençables. Donc, c'est finalement ce type de mise en scène d'une réalité politique flagrante que propose Mitré dans El Estudiante, et cette fronde contre la corruption et l'affairisme du pouvoir dans le film de Mitré. J'en vois pas d'équivalent dans le cinéma québécois. J'en vois pas d'équivalent aujourd'hui. Et le seul équivalent que je peux voir, finalement, c'est les films de Denis Arcand, qui, à mon sens, sont les plus pertinents, c'est-à-dire ces films politique au sens fort du terme, c'est-à-dire que Arcand, au début des années 70, a quand même fait quelques films comme On est au coton, ou encore lorsqu'il s'est adonné à la fiction, parce qu'On est au coton était un film documentaire qui mettait en scène les grandes compagnies de tissus et la difficulté pour les travailleurs d'avoir des conditions de travail convenables. Donc, d'emblée, Denis Arcand adoptait un point de vue dans son documentaire qui était très proche de celui des travailleurs, qui avait beaucoup de sympathie finalement pour ce point de vue. Bon, on est très loin du Denis Arcand actuel qui, lors de la projection du film Le déclin de l'Empire américain au rendez-vous du cinéma québécois, a accordé une seule entrevue, et c'était au Journal de Montréal, pour regretter que le film n'ait pas été présenté plutôt en numérique, au lieu d'offrir un nouveau tirage en 35 mm. Et il exprimait ce regret, évidemment, pour mieux considérer que s'il y avait eu une projection numérique, celle-ci aurait été soutenue par Éléphant appartenant évidemment à Québécois étant le média dans lequel Denis Arcand avait accordé sa seule entrevue, alors que la veille, Pierre Calipalado avait réalisé une entente historique avec les employés du Journal de Montréal et forcément cassé le mouvement syndicaliste du journal à cette occasion. Donc, évidemment, je ne parle pas de ce Denis Arcand-là, je parle de celui qui réalise, par exemple, Régine Padovani, et qui met en scène des politiciens corrompus en leur donnant des vêtements, des habits et des attitudes qui correspondent aux politiciens de l'époque, en particulier Robert Bourassa, qui est incarné par un alter ego absolument ressemblant à la personne du cinéaste Jean-Pierre Lefebvre, qui, pour l'occasion, jouait dans le film de son ami de l'époque. Régine Padovani, donc c'est peut-être le film qui me semble le plus proche dans le cinéma québécois d'un film comme L'Estudianté. Et quand on voit la manière assez complexe dont se dessine la carte de l'industrie cinématographique aujourd'hui, même du côté du cinéma d'auteur, et l'exemple d'Arcand est un bon exemple, là l'exemple d'Arcand est tout à fait probant là-dessus, il décide de croire que ce serait possible de faire une œuvre pareille qui serait une telle fronde à propos de la corruption et de la convergence médiatico-politicienne, entre autres. We'll be right back. On vient d'entendre un extrait de Diggy Diggy, dernière pièce de l'album Brown Rice de Don Cherry, dont j'ai presque fait tourner l'intégralité aujourd'hui. Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL, vous écoutez Au 7e ciel, regard sur le cinéma. Il reste à peine quelques minutes, le temps de vous dire encore quelques mots sur le Festival du cinéma indépendant de Buenos Aires. Là, cette fois-ci, ça va être simplement une petite brèche, une porte ouverte vers une autre section de ce festival que j'ai trouvé tout à fait passionnante, une section qui s'appelle Cine del Futuro. Une section qui s'intéresse à l'avant-garde, donc la frange la plus, disons, extrême, la plus vive de ce que serait la création contemporaine cinématographique dans sa quintessence. C'est un peu l'ambition que peut-être même j'affirme de manière ampoulée dans, que voudrait mettre de l'avant cette section, donc cinéma d'avant-garde. Et dans Ciné del Futuro, j'ai eu l'occasion de voir un film qui s'appelle La vie des sublimes, qu'on peut traduire par La vie sublime finalement, et qui signifie, entre autres, la sublimation d'un jeune homme qui s'identifie grandement à son grand-père anarchiste espagnol. C'est un film espagnol. Et à travers cette fascination pour les liens filiaux intenses qui le ramènent dans son grand-père, il réalise une série de performances fondées sur la légende de ce grand-père anarchiste qu'il n'a pratiquement pas connu. À un moment donné, d'ailleurs, il s'applique à bouffer littéralement une trentaine d'huîtres en un temps record et en calant des bières seul au comptoir, plutôt plus de 78, une affaire invraisemblable. L'acteur est toujours finalement mis sur la brèche par le réalisateur au cours de ce film. Et ce qui était fascinant dans La vie des sublimes, au-delà du fait que c'est un film très touchant qui traite des liens filiaux et d'une partie de l'histoire politique de l'Espagne qui a toujours été un peu masquée forcément par la dictature franquiste au long cours. Au-delà de ça, les liens avec la résistance à Franco jusqu'à nos jours avec des jeunes trentenaires au début des années 2000 en Espagne. Au-delà de ça, ce qu'on voit lorsque ce film est présenté à Buenos Aires, c'est l'extrême enthousiasme, l'extrême jubilation d'un public qui reconnaît avec beaucoup de vivacité les enjeux politiques que le cinéaste veut exprimer. Et il trouve aussi son compte, ce qui est assez étonnant. Il montre le degré de non-indifférence en ce qui a trait à la politisation du cinéma dans le cadre de ce festival qui ne s'annonce pas comme un festival politique, mais plutôt comme une fête du cinéma indépendant. Donc voilà pour résumer un peu ce qu'est cet événement assez unique, le BAFICI, Festival de cinéma indépendant de Buenos Aires. L'émission s'arrête là, on continue encore avec quelques notes de Don Cherry.